Motte, de parents non mariés. Son père avait apparemment été renversé par un chauffard qui avait pris la fuite quand Karen avait 4 ans. Et sa mère avait fait une overdose quand elle en avait 6. Environ un an plus tard, David et Elisabeth Pulaski, enregistrés comme parents adoptifs potentiels auprès de l'AAC, l'agence d'adoption du comté depuis 3 ans, avaient pris légalement pour fille cette gamine récalcitrante et difficile de 7 ans qui avait déjà vécu 2 coups durs. Les visites de l'AAC et des services pour l'enfance avaient lieu tous les mois pendant les 6 premiers mois, puis tous les 3 mois pendant l'année suivante, et enfin une fois par an à mesure qu'il devenait une formalité. Karen était devenue une enfant heureuse, équilibrée, sociable, et elle était restée ainsi jusqu'au jour où quelqu'un l'avait étranglée avec un câble, avant de balancer son cadavre dans une benne. Parrish se pencha sur le cas de Rebecca. Il semblait, à en croire un certain nombre de notes dans son dossier, que les services pour l'enfance avaient bien connaissance de l'existence d'Ellen Jarvis, et comprenaient qu'elle était de fait la personne qui s'occupait de Rebecca. Sur le papier, Danny était le tuteur. Mais en réalité, il avait peu fréquenté sa sœur jusqu'à ce qu'elle commence à lui rendre visite à Brooklyn. À première vue, il ne semblait pas y avoir de lien entre les deux jeunes filles, hormis le fait qu'elles avaient toutes deux perdu leurs parents alors qu'elles étaient en bas âge et avaient été adoptées, officiellement dans le cas de Karen, officieusement dans celui de Rebecca. En comparant les deux dossiers, Parrish ne trouva aucun dénominateur commun pour ce qui était des agents ou des superviseurs en charge, que ce soit auprès de l'AAC ou des services pour l'enfance. L'une venait de South Brooklyn, l'autre de Williamsburg, mais l'AAC et les services pour l'enfance géraient aussi Bedford-Stuyvesant et Ridgewood. Leur juridiction s'étendait jusqu'à Brooklyn Heights au nord-ouest et Gowanus et Red Hook au sud. S'il y avait un lien, alors Parrish ne le voyait pas, ce qui laissait supposer une coïncidence. Mais il ne croyait pas aux coïncidences. Il n'y avait jamais cru. Les coïncidences allaient à l'encontre de son sens de l'ordre et de la prédiction. Et puis, il y avait la jupe courte, le maillot à dos nu, les chaussures à talons hauts, et dans le cas de Rebecca, la coupe de cheveux et le vernis à ongles. Encore une coïncidence, le fait que dans les deux cas le tueur avait transformé ses victimes. Ce qui intéressait désormais Parrish était la possibilité qu'il y en ait d'autres. Des filles disparues dont l'apparence avait été modifiée, les cheveux coupés, les ongles vernis, qui portaient peut-être des vêtements qui ne collaient pas avec leur personnalité. Des filles qui avaient été négligées lors de l'enquête car elles n'avaient jamais été considérées autrement que comme des cas isolés. Mais, comme on le disait si souvent, une fois, c'était le hasard, deux fois, une coïncidence, mais trois fois, c'était un complot. Même s'il était possible qu'il s'agisse d'affaires isolées, sans rapport entre elles, sans le moindre lien, le visage de Rebecca continuait de hanter Parrish. Il se souvenait de sa propre fille à 16 ans, et cette simple image lui rappelait que Rebecca avait été la fille de quelqu'un. Et s'il ne cherchait pas à découvrir la vérité sur sa mort, alors qui le ferait? Danny? Danny était mort. Ellen Jarvis? Peu probable. Il était 16h lorsqu'il retrouva son bureau au commissariat du 126e district. Radic lui avait laissé une note. « Salle de tir, » disait celle-ci. « Appelez-moi en cas de besoin, sinon à demain. » Parrish n'avait pas déjeuné, mais il n'avait pas faim. Un verre, en revanche, un verre lui aurait fait du bien. Il accéda à la base de données de la division sur son ordinateur, effectua une recherche sur les disparitions et les assassinats de jeunes filles âgées de 15 à 20 ans au cours des 24 derniers mois. Il alla se chercher un café pendant que la machine tournait. À son retour, 17 noms étaient affichés sur son écran. Un seul lui était familier. Janvier 2007, une fille de 19 ans nommée Angela Ross. Parrish se souvenait de cette affaire. Angela avait été signalée disparue puis découverte le lendemain matin. Elle avait reçu 11 coups de couteau, 3 dans le cou, 2 sur le côté de la tête, les autres dans la partie supérieure du thorax. Le coupable n'avait jamais été retrouvé et le mobile du meurtre était demeuré un mystère absolu. Parrish savait grâce à son enquête qu'il n'y avait aucun lien avec les services pour l'enfance. Angela était bien la fille de ses parents, c'était la Benjamine de quatre enfants. Il parcourut les 16 autres affaires. 5 avaient été attribuées à Ace et Welland, dont 3 étaient closes. 7 à Rhodes et Pagliaro, dont 6 closes. Finalement, 4 à Engle et West, dont 2 closes. Ce qui laissait à Parrish 5 affaires non résolues et toujours actives. 3 disparitions et 2 assassinats, rien que des jeunes filles âgées entre 15 et 20 ans, toutes dépendant de la juridiction du 126e district. Il nota leurs noms et les numéros d'affaires et prit la direction des archives pour consulter les dossiers. Ce furent les photos qui retinrent son attention. Il resta pendant une éternité assis sans rien faire, avec les clichés étalés devant lui. 2 assassinats, 3 fugues apparentes, 5 filles toutes jeunes, 2 d'entre elles à la fin de leur vie avant même qu'elle ait débuté. Dans un cas, Jennifer Bowman, 17 ans, le corps avait été méticuleusement étendu sur un lit dans une chambre de motel, presque paisible, telle une sacrifiée consentante. Il y avait des marques de contusion et de liens aux poignets et aux chevilles. Et il avait été confirmé que la chambre du motel n'était pas le lieu du crime. Jennifer n'avait pas été assassinée là-bas. Elle y avait simplement été déposée pour que quelqu'un la trouve. Une autre, Nicole Bénédicte, elle aussi 17 ans, avait été retrouvée morte dans une housse de matelas dans la cage d'escalier d'un immeuble. Sa tête était inclinée en arrière selon un angle impossible. Parrish regardait la photo pendant un long moment. L'image bouleversante et perturbante. Il semblait physiquement impossible de faire une telle chose à une jeune fille, mais quelqu'un l'avait fait, et les photos étaient là pour le prouver. Parrish rassembla les dossiers et retourna à son bureau. Une heure plus tard, il n'avait trouvé qu'une seule référence au service pour l'enfance, une simple note de bas de page dans laquelle Ace se demandait si Jennifer Bowman avait été prise en charge par les services pour l'enfance, ou si elle avait une amie prise en charge qui devait être interrogée. Parrish n'avait pas l'intention de demander à Hayes ce qu'il en était exactement. Sa décision, qui allait assurément à l'encontre du protocole, voire de la procédure, était de ne révéler à personne qu'il s'intéressait à ses affaires. Il rangea les dossiers des disparitions dans le tiroir du bas, ceux des 2 assassinats dans celui du haut, et jeta avant de partir un dernier coup d'œil au visage de Jennifer Bowman. Ses yeux étaient la tristesse personnifiée. Une tristesse si profonde que Parrish se sentit vide. Il avait désormais 4 filles mortes, Rebecca, Karen, Jennifer et Nicole. Elles n'avaient peut-être aucun lien entre elles, il était peut-être complètement à côté de la plaque, mais ça ne ferait pas de mal de les garder un moment sous le coude. Les mortes semblaient importantes. Les fugueuses, eh bien, elle pouvait elle aussi être morte, mais pour le moment elle ne l'était pas, du moins pas sur le papier. À 18h30, Parrish était assis dans un box, dans un recoin de Clay's Taverne. Il n'arrivait pas à sauter Caitlin de la tête. Il savait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter pour elle aujourd'hui plus qu'un autre jour, mais les photos qu'il avait regardées l'avaient suffisamment troublé pour faire rejaillir ses angoisses. Elle lui en voulait chaque fois qu'il essayait un tant soit peu de la conseiller ou de s'immiscer dans sa vie. Il devait apprendre à lui foutre la paix. Il devait lui lâcher la bride. Elle était assez grande pour sombrer ou s'en sortir toute seule. Parrish était loin de s'en faire autant pour son fils. Avec Robert, c'était différent, comme toujours avec les garçons. Robert le provoquait, il discutait et débattait, il posait des questions. Parrish lui avait même parlé d'Ève. Et Robert trouvait ça archi cool que son flic de père ait une liaison avec une prostituée. Aussi bien Robert que Caitlin possédaient la clé de son appartement, mais Robert était le seul à qui il arrivait de débarquer à l'improviste. Frank savait que son fils était un peu plus tête brûlée que sa fille, mais il ne s'était jamais inquiété pour la santé ou la sécurité de Robert. Alors qu'avec Caitlin, Parrish décida de penser à autre chose. Caitlin allait bien. C'était juste cette affaire qui lui tapait sur les nerfs, songea-t-il. Les photos, l'idée de jeunes filles mortes dans des chambres de motel, dans des cages d'escalier, des jeunes filles.